toi, t'es pas au clair sur ton identité masculine. Cette phrase, c'est un chrétien qui me l'a dit en juillet 2006. Dans le rassemblement où je me trouvais, il faisait partie des personnes qu'on pouvait solliciter pour prier pour nous. Je ne sais plus ce qui m'avait fait m'avancer, mais on m'avait dirigé vers lui et il m'avait balancé ça comme ça. D'où lui était venue cette parole ? Alors je suis prudent avec ces paroles parce que beaucoup de gens disent beaucoup d'âneries. Mais là, il se trouve qu'il avait raison. Quelques années plus tôt, je disais encore à qui vous voulez l'entendre, tenez-vous bien, que j'étais lesbienne. Voilà. Je vous le dis parce que parfois on ne voit pas tout quand on croise les frères et sœurs dans l'église. On ne se rend pas forcément compte d'où ils viennent, de leur passé. En fait, je dirais même qu'on ne s'en rend jamais compte. Mais on a tous un passé, tous un vécu, tous des failles. Et c'est bien de temps en temps de se les dire. Je disais ça parce que j'éprouvais une grande aversion pour le genre masculin. Ma chanson préférée, c'était Miss Maggie de Renaud. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, il y a trop de gros mots dedans pour que je puisse vous la retranscrire ici. Mais si vous l'écoutez, vous verrez que son objet est de dire que les hommes atteignent un niveau de bêtise, de cruauté et de médiocrité qui n'a pas d'équivalent chez les femmes, à part peut-être chez Madame Thatcher. Bon, c'est lui, c'est pas moi qui le dis. Hein. Et moi, j'aurais signé ça des deux mains. Alors, je ne parle pas pour Madame Thatcher, mais pour le reste, j'aurais signé ça des deux mains. Être un homme, pour moi, c'était un sujet d'écœurement, au point d'éprouver le besoin de m'en excuser. Bref, cet homme, accompagné d'une dame, m'a emmené à l'écart, et tous les deux, ils ont prié pour moi. Ils ont prié pour que je réinvestisse pleinement ma masculinité. Alors, ça serait un sujet très intéressant, parce que les questions d'identité sont un lieu clé de restauration dans nos vies, mais, désolé de vous le dire, je ne suis pas venu vous parler de ça en vrai. En vrai, je suis venu vous parler de cet homme, de ce gars-là qui est venu avec cette affirmation pour le moins curieuse, osée, tranchée, mais qui tombait juste. Je viens vous parler de paroles prophétiques. On ira pour ça dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 23, mais je vais d'abord prier. Seigneur, je veux vraiment te rendre grâce pour tout ce qui s'est vécu hier, pour ces jeunes qui sont sortis dans la rue pour parler de toi, Seigneur, pour témoigner de toi, pour dire des choses aux Chambériens qui viennent de toi. Je te remercie, Seigneur, pour ces actes prophétiques, pour ces paroles prophétiques qui ont été prononcées, pour ces interpellations des gens qui nous entourent et qui ont infiniment besoin de toi. Nous voyons ce monde qui nous entoure et qui vit sans espérance. Nous voyons ces drames qui se succèdent autour du monde. Nous voyons ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient. Et nous avons cette pleine conscience de ce que ce monde a infiniment besoin de toi. Seigneur, toi, tu es avec nous, tu vis en nous par ton Esprit Saint. Tu as un message pour ce monde, un message d'espérance et plus que d'espérance, un message de salut. Seigneur, nous sommes porteurs de ce message. Je te prie que ce matin, en écoutant ta parole, nos barrières tombent et que nos bouches s'ouvrent. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Voici le texte que je vais lire dans la version Parole de vie. Jérémie chapitre 23, les versets 13 à 18. Chez les prophètes de Samarie, c'est Jérémie qui parle j'ai vu des choses inacceptables. Il parlait au nom du Dieu Baal et il trompait Israël, mon peuple. Mais chez les prophètes de Jérusalem, je vois des choses horribles. Ils commettent l'adultère, ils vivent dans le mensonge, ils soutiennent ceux qui font le mal. Ainsi, personne ne peut arrêter de mal agir. Pour moi, ils sont tous devenus comme les gens de Sodome. Les habitants de Jérusalem ressemblent à ceux de Gomorre. Eh bien, voici ce que le Seigneur de l'univers dit au sujet de ses prophètes. Je vais leur donner une plante amère à manger et de l'eau empoisonnée à boire. Voici pourquoi. Les prophètes de Jérusalem sont une source impure qui se répand ensuite dans tout le pays. Voici ce que dit le Seigneur de l'univers. N'écoutez pas les paroles de ces prophètes, ils vous trompent. Ce qu'ils vous annoncent, ils l'inventent eux-mêmes. Cela ne vient pas de moi. À ceux qui se moquent de moi, ils osent dire « Le Seigneur a annoncé, pour vous, tout ira bien ». À ceux qui suivent seulement leurs propres intentions, ils affirment « Le malheur ne vous touchera pas ». Mais qui a assisté à mon conseil? Qui a vu ma parole? Qui l'a entendu? Qui a fait attention à mes paroles? Et qui a compris? Alors, pour aborder ce sujet de la prophétie à travers ce texte du prophète Jérémie, c'est intéressant de regarder d'abord qui était Jérémie et dans quel contexte il a évolué. Donc le schéma qui est derrière moi vous présente l'histoire du peuple d'Israël à partir de l'époque des rois. Vous avez d'abord la monarchie unifiée, donc un seul royaume, qui va être ensuite divisé en deux, avec au nord le royaume d'Israël et au sud le royaume de Juda. En 722, vous avez le royaume d'Israël qui tombe aux mains des Assyriens, qui vont déporter les cadres et les notables pour saper toute velléité de révolte et qui vont envoyer du monde s'installer en Samarie. Et ce petit monde assyrien qui arrive en Samarie n'arrive pas tout seul, il vient avec ses propres croyances et notamment il vient avec son culte à une divinité bien connue de l'époque qui s'appelle Baal. Alors on pourrait se dire que le royaume de Juda a été épargné de tout ça, mais évidemment, quand vous regardez ce que représente l'empire assyrien, c'est toute la partie un peu sombre là, à côté du Rikiki, royaume de Juda, qui est en rose ici, vous vous doutez bien que le dit royaume de Juda jouit d'une indépendance quand même toute relative. Alors même si c'est dans une moindre mesure, puisque les Judéens n'ont été ni déportés ni colonisés, les cultes idolâtres assyriens sont quand même parvenus à pénétrer dans le royaume. Et c'est dans ce contexte-là que va naître le prophète Jérémie, aux alentours de 650 avant Jésus-Christ, dans un petit village situé à 7 km au nord de Jérusalem. Seulement, la Syrie, toute puissante qu'elle soit, voit elle aussi une force montante arriver qui est l'Empire babylonien. On le voit en vert sur le schéma. Et ça, ça n'échappe pas au tout jeune roi Josias du royaume de Juda qui est arrivé au pouvoir en 638 et qui va profiter de l'affaiblissement de l'Empire assyrien pour commencer à essayer de se débarrasser des lieux d'idolâtrie qui ont pénétré dans le royaume de Juda. Et c'est là que Jérémie va commencer son ministère. Spirituellement, il va venir appuyer ce que le roi est en train de faire physiquement. Il va d'abord s'en prendre aux responsables religieux qui l'accusent de ne pas s'occuper correctement du peuple. Et puis, il va s'en prendre, et c'est ce que nous venons de lire, aux prophètes. Alors, pour ce qui est du royaume du Nord, Jérémie dit qu'il a vu des choses qui sont inacceptables. Il parlait au nom du dieu Baal, dit-il, et il trompait Israël, mon peuple. C'est inacceptable. Mais du côté du royaume du Sud, il dit que c'est horrible ce qui se passe. C'est horrible. Parce qu'au nord, en fait, ça fait longtemps qu'on sait que la région est corrompue par la présence assyrienne. Et en fait, la situation a le mérite d'être claire. Les prophètes là-bas ne parlent pas au nom de l'Éternel. Ils parlent au nom de Baal. Ce sont des prophètes de Baal. Mais au sud, dans le royaume de Juda, la situation est un peu différente. Les prophètes, eux, parlent au nom de l'Éternel. Sauf que, nous dit Jérémie, ils sont adultères. Alors ça n'a rien à voir avec leur situation matrimoniale. Ils sont adultères, c'est-à-dire qu'ils sont infidèles au Dieu d'Israël. Ils prétendent parler en son nom, mais en fait, ils apportent les paroles d'un esprit menteur et trompeur. Alors vous me direz peut-être, mais en fait, qu'est-ce qu'on en a à cirer de ces histoires de prophètes de l'an 700 avant Jésus-Christ ? En quoi est-ce que ça nous concerne aujourd'hui ? Eh bien, Ça nous concerne parce que depuis que l'Esprit Saint a été déversé sur tous les croyants, nous sommes tous prophètes. En Actes 2, 17 et 18, on lit ceci : Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ça, ce sont les paroles de Pierre, de l'apôtre Pierre à la Pentecôte, qui reprend là une prophétie du prophète Joël au chapitre 2 et qui l'associe à l'arrivée de l'Esprit Saint sur les croyants. En ces jours-là, tous prophétiseront. Moïse lui-même avait souhaité que ce jour arrive. En Nombre 11, 29, il dit « Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux, eh bien, bonne nouvelle, ça y est, c'est fait. L'Éternel a mis son esprit sur nous, sur tout le peuple, les hommes, les femmes, les jeunes gens, les vieillards, tous. » Ce qui fait que Paul exhorte les croyants de Corinthe, en 1 Corinthiens 14, à aspirer aux pratiques spirituelles, surtout à celles qui consistent à parler en prophète. Ok, mais en fait, parler en prophète, ça veut dire quoi, concrètement et pragmatiquement? Si on jette un œil dans l'Ancien Testament, je crois que la première chose qu'on voit, c'est ce qu'on pourrait appeler un prophétisme social. Les prophètes se font les porte-voix de Dieu dans la société qui les entoure. Ils interpellent les rois et les citoyens sur leurs divagations, sur leurs péchés, sur leurs besoins de repentance. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Eh bien, pour leur éviter d'aller dans le mur, en fait, tout simplement. Ce qui fait, soit dit en passant, qu'une prophétie n'est pas toujours quelque chose qui se réalise. Jonas a prophétisé la destruction de Ninive, ce qui a amené la ville à se repentir, et précisément à éviter la destruction. Ça ne fait pas de Jonas un faux prophète, il a agi en prophète et le dessein de Dieu s'est accompli pour sa gloire. Mais Jonas, ça nous paraît peut-être un peu loin. À quoi ça ressemble le prophétisme social aujourd'hui? Alors plutôt qu'un long discours, je vais vous donner deux noms qui, à mon avis, l'illustrent bien. Évidemment, ça n'engage que moi. Mais si on me demandait de citer deux prophètes du XXe siècle, je citerai assez facilement l'abbé Pierre d'un côté, Martin Luther King de l'autre. En voilà deux qui ont dénoncé les injustices de leur temps et qui l'ont fait au nom du Dieu et Père de Jésus-Christ. Ils l'ont fait porter par leur foi. Mais plus largement, la prophétie peut être définie comme le fait de transmettre un message, en parole ou en acte, qui est inspiré par l'Esprit de Dieu. Et à ce titre, certains disent que la prédication, appelez-moi prophète, relève de la prophétie. La Bible porte un message inspiré par l'Esprit de Dieu, c'est là ce que nous croyons, et le prédicateur a la charge de transmettre ce message. D'autres disent, non, la prédication, c'est de l'ordre de l'enseignement. Et moi, comme j'aime bien réconcilier tout le monde, je me dis que ça peut être les deux, en fait. Je crois que dans la prédication, il y a des moments d'enseignement, mais il y a aussi des moments aux accents prophétiques, d'appel à la repentance, par exemple. Et finalement, il y a une forme de prophétie un peu plus controversée et sur laquelle je vais passer un peu plus de temps, du coup. C'est ce qu'on appelle les paroles de sagesse et les paroles de connaissance. Ça, c'est l'apôtre Paul qui les mentionne en 1 Corinthiens 12, 8, quand il parle des dons de l'Esprit. Le contexte de 1 Corinthiens 12 montre qu'il ne s'agit pas là d'une sagesse ou d'une connaissance humaine, mais bien d'une sagesse ou d'une connaissance qui vient d'en haut, qui vient de Dieu. Il y a quelque chose de surnaturel dans ces paroles de sagesse ou de connaissance. Ce qui ne veut pas dire que c'est nécessairement spectaculaire dans la forme. Il y a des gens, je crois, qui transmettent des paroles de sagesse ou de connaissance de la part de Dieu et qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de le faire. Il y a peu de temps, quelqu'un m'a parlé d'une personne de sa famille qui un jour lui a dit quelque chose la concernant. Et elle m'a dit, je ne sais pas d'où lui est venue cette parole, mais c'est clair que ça ne venait pas d'elle. Il y a parfois des paroles fondamentales, tout à fait étonnantes, surprenantes dans la bouche de celui qui les prononce, qui viennent nous chercher dans l'intime, qui donnent dans le mille et qui viennent bousculer quelque chose d'important dans notre vie. Par exemple, un type qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui nous regarde et qui nous dit, toi, tu n'es pas au clair sur ton identité masculine. Et il donne dans le mille. ce qui te permet de te repentir, de redresser la barre en te réappropriant une partie fondamentale de ton identité et en apprenant à l'aimer. Alors on peut se dire, waouh, mais c'est exceptionnel ce genre de parole. Eh bien en fait, je suis là en partie pour vous dire que ça n'est pas l'exception, en fait, c'est la norme. C'est la norme parce que nous avons l'Esprit Saint. En nous demeure le Dieu créateur du ciel et de la terre, le pourvoyeur de toute sagesse, et notre Dieu est un Dieu qui parle. Et donc oui, Dieu peut nous donner des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, dont un frère ou une sœur en Christ a besoin pour avancer dans sa vie de foi. Alors vous me direz, mais il pourrait les lui dire à lui direct, ça irait plus vite, non? Et c'est vrai, sans doute. D'ailleurs, il le fait souvent, il peut nous révéler des choses à nous directement, soit dans un moment de prière, où on prend conscience de quelque chose, le Seigneur nous montre quelque chose sur nous-mêmes, ou dans un moment où nous lisons la Bible, une parole qui nous saute aux yeux, et où on se dit, mais ça, en fait, c'est pour moi. Mais Dieu prend aussi plaisir à nous parler par des frères et des sœurs en Christ. Parce que ce que Dieu bâtit, ça n'est pas que ta petite relation personnelle avec lui, il bâtit en fait son Église. C'est ça le projet de Dieu, de bâtir son Église. Il fait de nous un peuple. Notre foi est une foi intrinsèquement communautaire. C'est le désir de Dieu de passer par nous pour que nous nous édifions les uns les autres. Il a voulu que nous ayons besoin les uns des autres. Il a voulu que nous soyons là les uns pour les autres. Alors, oui, il nous donne parfois des paroles les uns pour les autres. Et il est bon de développer cette sensibilité à ce que l'Esprit-Saint nous dit non seulement sur nous-mêmes et pour nous-mêmes, mais aussi sur les autres et pour les autres. Et je sais que ça, c'est une dimension qui fait peur. C'est pour ça que je disais qu'elle est controversée. Ça fait peur parce qu'on connaît trop d'exemples de gens qui sont venus poser des paroles sur la vie d'autres personnes en disant « Dieu m'a dit que tu dois faire ceci ou cela ». Eh bien, il faut un peu plus d'humilité que ça, les amis. Il y a des personnes qui se sont laissées enfermer par de telles paroles. Des gens qu'il faut délivrer aujourd'hui de paroles pseudo-prophétiques qui ont été posées sur leur vie et qui les ont coincées dans une espèce de carcan alors que ces paroles ne venaient pas de Dieu. Ce qu'ils vous annoncent, dit Jérémie, ils l'inventent eux-mêmes, ça ne vient pas de moi. Donc, on a raison d'être prudent face à de telles paroles. Mais il y a quand même une règle de base quant à la prophétie, une règle toute simple qui nous vient de l'apôtre Paul en 1 Thessaloniciens 5, versets 20 et 21, où il dit « Ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon ». Cette règle de base, c'est que le discernement, à la fin, est entre les mains de celui qui reçoit cette parole de sagesse ou de connaissance. C'est lui qui peut dire « Waouh, ce qui vient de m'être dit, ça venait du Seigneur ». Alors, je vous fais un petit résumé en images de ce que je viens de dire avec un mème bien connu de tous les geeks qui passent trop de temps sur Internet pour vous dire qu'on n'arrive pas en disant « Le Seigneur m'a dit que tu dois ». Ça, c'est orgueilleux à l'excès. On vient humblement, on dit la parole qui nous est venue, l'image qui nous a été donnée, et c'est à l'autre de discerner si ce qu'on vient de lui dire vient de Dieu. Maintenant, on est quand même en droit de se poser la question, comment faire ? Comment faire pour discerner si oui ou non cette parole qui vient de m'être dite vient de Dieu ? Le verset 13 laisse entendre quelque chose d'assez clair, je crois, c'est qu'une parole prophétique droite et juste ne peut pas être inspiré par quelqu'un d'autre que par le Dieu et Père de Jésus-Christ. Les prophètes qui parlent au nom du Dieu Baal, dit Jérémie, trompent Israël, mon peuple. Ça semble assez évident, mais on vit dans un monde qui a tellement perdu ses repères qu'il faut le rappeler. Si quelqu'un prétend vous apporter une parole de sagesse ou de connaissance au nom d'Allah, de Bouddha ou de l'esprit du cosmos, passez votre chemin. Faites en sorte que ça rentre par une oreille et que ça ressorte par l'autre. Et ça, ce n'est pas de l'intolérance, c'est de la cohérence. Parce que s'il n'y a qu'un seul Dieu, et que ce Dieu est celui de Jésus-Christ, ça implique que tout ce qui vient se présenter comme étant Dieu en dehors du Dieu révélé de la Bible est une idole. Et ça, c'est pour le dire gentiment. Parce que pour le dire plus clairement, Paul ne fait pas de mystère sur le fait que derrière les idoles se cachent des démons. Vous pouvez aller lire ça en 1 Corinthiens 10, versets 19 et 20, si ça vous intéresse. Je vous laisse imaginer ce qu'une parole de démon peut faire dans votre vie, quand bien même elle serait déguisée en parole de lumière. Parce que ça, c'est la deuxième chose. Une parole comme ça peut arriver très bien déguisée, très bien déguisée. Le verset 14 nous met en garde sur le fait que de mauvaises paroles peuvent même être dites par les prophètes de l'Éternel eux-mêmes. Là, ça devient compliqué, hein. On nous donne trois exemples au verset 16 et 17. Premièrement, il y a des prophètes qui disent les visions de leur cœur, si je prends une traduction un peu plus littérale que celle qu'on a lue. Ce qu'ils disent, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont reçu de Dieu, c'est quelque chose qui sort d'eux-mêmes, qui sort de leur cœur tortueux. Deuxièmement, ils annoncent à ceux qui méprisent le Seigneur que tout ira bien. Vous inquiétez pas, on ira tous au paradis de toute façon. Et troisièmement, ils disent à ceux qui suivent leurs propres intentions, le malheur ne vous touchera pas. Sauf qu'en vrai, si on se laisse guider par notre propre volonté qui va de guingois, par nos propres pensées qui fonctionnent de travers, ou par nos propres émotions qui peuvent tout à fait avoir pour origine de bons vieux traumatismes, eh bien, on va dans le mur. Le message prophétique, en fait, est souvent bousculant, interpellant, dérangeant. Une parole prophétique, bien souvent, ça met le doigt là où ça fait mal, pour amener la personne à la repentance et la remettre sur les rails d'une restauration intérieure. Ça sert à lui éviter la destruction, comme Jonas à Ninive. Seulement, là, on apprend que les prophètes de Jérusalem disaient n'importe quoi. Et ça signifie pour nous que ça n'est pas parce qu'une personne est chrétienne que sa parole est forcément bonne et qu'elle vient forcément de Dieu. 1 Jean 4, verset 1 nous dit « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit. Examinez plutôt les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de prophètes de mensonges sont sortis dans le monde. » Ça n'est même pas parce qu'une personne cite la Bible que sa parole est forcément bonne et qu'il parle par l'Esprit de Dieu. Satan a cité la Bible pour tenter Jésus dans le désert. Ce qu'il disait était « On ne peut plus biblique, textuel, mais c'était dit par l'Esprit du diable. » Et ça change tout, parce que ça tord la parole de Dieu. Alors, comment discerner si les paroles qui nous sont données viennent bien du Seigneur ? Eh bien, je vous propose de retourner le problème à l'envers, en se demandant plutôt comment nous, on peut apporter des paroles de sagesse ou de connaissance à nos frères et sœurs, parce qu'en fait, on va mobiliser les mêmes ressources. Qu'est-ce qui fait qu'un prophète est un bon prophète ? Un vrai prophète ? C'est le verset 18 qui nous en parle. Premièrement, un vrai prophète assiste au conseil de l'Éternel. Pour apporter des paroles qui viennent de Dieu, aux surprises, il faut avoir une proximité avec Dieu. Il faut assister au conseil de Dieu. Et ça, c'est dans la prière que ça se passe. Nous assistons au conseil de Dieu quand nous passons du temps avec Dieu dans la prière. C'est là que ça se passe. Et puis, un bon prophète écoute la parole de Dieu. Et le terme ici, bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans tout ça, mais enfin, c'est Shama, comme dans Shama Israël, c'est plus qu'entendre, c'est écouter, écoute Israël. Pour l'anecdote, parce que je la trouve parlante, et je pense qu'on la retient facilement, l'écoute en termes maritimes, c'est un cordage qui sert à orienter la voile. C'est assez clair, je crois. Écouter la parole de Dieu, c'est orienter la voile de notre vie en fonction de cette parole. Un prophète écoute la parole de Dieu. Ça implique deux choses. D'abord, ça implique d'être familier de cette parole, de la Bible, qui est la parole de Dieu par excellence, se laisser façonner, pétrir par elle. Et ensuite, ça implique d'être à l'écoute de ce que Dieu nous dit dans la prière, de ce qu'il fait remonter en nous par son Esprit Saint. Et qu'est-ce qui se passe quand on a cette proximité avec Dieu, quand on assiste au conseil de Dieu et que nous écoutons sa parole ? Eh bien, Amos 3, verset 7, nous dit que le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret, d'autres traductions disent d'ailleurs son conseil, à ses serviteurs, les prophètes. Dieu prend plaisir à nous révéler des choses dans la prière, parfois sur nous-mêmes, parfois aussi sur d'autres personnes, sur ce qu'elles traversent, pour leur édification. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Plus nous sommes familiers du conseil de Dieu et de la parole de Dieu, à commencer par sa parole révélée dans la Bible, plus nous avons un discernement fin sur cette épineuse question, Par quel esprit ce gars, cette fille, me dit ce qu'il est en train de me dire ? Tous prophètes, vous vous êtes repentis, vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, par le baptême, vous êtes mort et ressuscité avec lui, alors vous avez reçu son esprit, un esprit de sagesse, un esprit de connaissance qu'il convient de ne pas éteindre et de ne pas attrister. Bien au contraire, assistons au conseil de Dieu, écoutons sa parole. C'est lui qui change les temps et les circonstances, dit Daniel au chapitre 2, qui renverse les rois, qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Je termine simplement en disant ceci. Ces choses cachées que le Seigneur m'a parfois révélées, ces choses qui étaient dans les ténèbres et que Dieu voulait faire sortir à la lumière en prenant soin de me les montrer, je les ai parfois retenues, tantôt par négligence, tantôt par crainte de me mêler de ce qui ne me regardait pas, tantôt par peur de manquer de tact et d'empirer la situation plutôt que de contribuer à l'améliorer. Et j'ai donc parfois retenu captive la vérité, cette vérité dont il nous est pourtant dit qu'elle a la capacité de nous rendre libres. Cette prédication est là pour dire que je crois que nous avons besoin d'ouvrir la bouche. Nous avons besoin d'ouvrir notre bouche. Pour autant, ça ne veut pas dire non plus que n'importe qui peut s'autoriser à dire n'importe quoi, n'importe comment, au premier quidam qui passe. Et c'est pour ça que dans cette église, on a mis en place, vous le savez maintenant, une équipe d'accompagnement spirituel. C'est pour offrir un espace sécurisé par le ministère de l'Église à celles et ceux qui ont besoin d'entendre une parole du Seigneur sur leur vie, parce qu'ils sentent qu'ils sont coincés dans leur foi, qu'ils n'arrivent pas à avancer, qu'ils sont bloqués peut-être par une situation, par un péché duquel ils n'arrivent pas à se débarrasser. Et dans cet espace, c'est pour ça qu'on l'a créé, je dirais, on ne va pas poser des paroles inconsidérées. C'est un espace où on va assister ensemble, accompagnant et accompagné au conseil de Dieu. Un espace où on va ensemble écouter la parole de Dieu et écouter ce qu'il dit de la situation dans laquelle la personne se trouve. Un espace où on va ensemble discerner quels actes de foi sont maintenant à poser pour être enfin libérés des jougs que l'ennemi a placés sur nos épaules. Alors si vous êtes cette personne coincé dans sa vie de foi, si vous croyez que Dieu parle et qu'il a certainement quelque chose à vous dire, eh bien je vous invite simplement à sauter le pas. Vous avez là mon contact, vous me contactez et je vous mets en relation avec un binôme d'accompagnants. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui parle. Merci parce que tu es un Dieu qui vient apporter la lumière dans les ténèbres, qui vient apporter la lumière dans les ténèbres de nos vies. Seigneur, merci pour ton Église. Tu as voulu bâtir un peuple. Tu as voulu que dans ce peuple, il y ait des membres qui forment un corps. Tu as voulu que dans ce corps, l'œil ne puisse pas dire à la main « j'ai pas besoin de toi », que la tête ne puisse pas dire au pied « j'ai pas besoin de toi ». Tu as voulu au contraire que nous ayons besoin les uns des autres. Seigneur, tu nous parles. Lorsque nous nous approchons de toi, lorsque nous assistons à ton conseil dans la prière, lorsque nous nous imprégnons de ta parole, lorsque nous l'écoutons et que nous la mettons en pratique dans notre vie, tu nous parles. Tu nous parles sur nous-mêmes, tu nous révèles des choses sur nous-mêmes. Parfois, tu nous révèles aussi des choses sur d'autres personnes, parce que tu nous as fait interdépendants. Tu as voulu que la main aide l'œil. Tu as voulu que l'œil puisse voir pour les pieds. C'est comme ça que tu as bâti ton Église. Seigneur, nous ne voulons pas léser nos frères et sœurs. Quand tu nous révèles des choses, Seigneur, tu nous appelles à les partager, à les dire. Seigneur, nous voulons aussi être sages. Nous ne nous prenons pas pour Dieu. Nous savons que nous ne sommes pas Dieu. Nous savons aussi que nous sommes faillibles. Seigneur, je te prie à la fois d'ouvrir notre bouche et à la fois de l'ouvrir, de nous permettre de l'ouvrir avec une grande humilité, pour que ceux qui ont des choses à entendre puissent les entendre, mais pour que ce soit eux qui puissent discerner si ce qui est dit vient de toi ou si ce qui est dit vient d'un cœur tortueux ou vient d'une envie toute humaine. Je te prie de nous donner cette capacité de discernement, et nous savons que cette capacité de discernement, elle vient aussi de la proximité que nous avons avec toi. Elle vient aussi du fait que nous-mêmes nous assistons à ton conseil, que nous-mêmes nous écoutons ta parole, parce qu'ainsi nous savons à quoi elle ressemble, ta parole. Nous comprenons de mieux en mieux comment toi tu parles. Nous discernons de mieux en mieux si ce qui est dit là, ça vient de toi ou si ça vient d'un autre esprit, parce que nous te connaissons et que tu nous connais. Seigneur, je te prie en particulier à nouveau pour ces équipes d'accompagnants qui sont en place dans cette église, parce que nous avons voulu offrir un espace sûr, un espace où nous sommes redevables les uns vis-à-vis des autres, où nous assistons ensemble à ton conseil pour essayer d'affiner aussi notre écoute, notre compréhension de qui tu es, et pour pouvoir apporter des paroles qui viennent de toi. Je te prie, Seigneur, pour le discernement qui s'exerce dans ces moments d'accompagnement et qui est un discernement commun entre l'accompagnant et l'accompagné, entre les accompagnants et l'accompagné. Je te prie pour que dans ces lieux, ta voix se fasse entendre. Je te prie pour que dans ces lieux, la voix de l'ennemi se taise. Seigneur, tu es souverain, tu as voulu que ces lieux existent dans notre Église, et nous te prions pour que dans ces endroits, ça soit un endroit privilégié pour que la vérité soit dite et pour que ta volonté se fasse dans chacune de nos vies. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen.